Bonjour à tous, je vous propose, avant de passer à la prédication, de pouvoir prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la joie et la liberté que nous avons de pouvoir encore nous réunir ce matin autour de ta parole et entre frères et sœurs. Et nous venons maintenant à toi pour entendre encore ce que tu as à nous dire ce matin. Nous te remettons ces enfants qui descendent aussi à l'école du dimanche, à la garderie, afin que tu travailles encore dans leur cœur et qu'ils aient le désir de, pas seulement d'avoir entendu parler de toi, mais de te rencontrer pleinement un jour. Nous remettons nos propres cœurs et nos propres vies entre tes mains ce matin et donne-nous d'être attentifs encore à ta parole et à ce que tu veux nous dire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous propose la lecture de deux textes pour ce matin. Le premier qui est dans Jean 1. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toute chose par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, mais ni par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné cette nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme, et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, « C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Dieu nous a donné la vie, la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Puis un autre texte dans 2 Corinthiens 5. Passe encore, pardon. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. C'est par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même nous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Ça y est, c'est parti. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est parti, hein. Ça y est, les hostilités ont été lancées. Et oui, avec le Black Friday, ça y est, c'est parti. La course au cadeau de Noël est partie. Alors, là, pendant plusieurs semaines, eh bien, ça va être la course à savoir quel cadeau nous allons bien pouvoir offrir. Et en cette période de Noël, eh bien, les Français sont stressés. D'un côté, ils désirent faire plaisir à leurs proches, mais ils sont préoccupés par leur consommation à Noël en se demandant avec quel budget ils vont y arriver. Ces dernières semaines avant le réveillon sont donc une course éperdue dans les magasins qui diffusent l'hymne célèbre du petit Papa Noël, à la recherche de la bonne affaire, du cadeau sympa, pas cher, qui fera plaisir. Cela commence de plus en plus tôt. Déjà maintenant, il paraît que dès septembre, eh bien, certains ménages qui sont peu fortunés déjà commencent à acheter pour pouvoir étaler leurs achats. Cette année, chaque consommateur devrait, selon les estimations, dépenser 557 euros en moyenne pour Noël. Et un budget de 133 euros par enfant est consacré à un enfant qui aura en moyenne entre 9 et 11 cadeaux. Et pour donner une dimension internationale à cette frénésie, eh bien c'est encore plus de 700 millions de cadeaux à travers le monde qui vont être offerts encore cette année. Mais pourquoi est-ce que nous accordons autant d'importance au fait de faire des cadeaux à Noël ? Comme les tribus maoris, qui sont observées par un père fondateur de l'ethnologie, Marcel Mauss, eh bien nous jouons au jeu de l'échange volontaire obligatoire. L'échange volontaire obligatoire. Ce jeu est basé sur une triple obligation, celle de donner pour créer et densifier les liens sociaux, celle de recevoir, qui peut dire non au cadeau de Tata Nicole, même si c'est un affreux tableau, et celle de rendre cadeau pour cadeau, sous peine de voir nos relations se crisper, voire se rompre. Mais en cette période de Noël, nous nous creusons la tête ainsi pour savoir eh bien, ce qui pourra faire plaisir à beau papa ou à tata Paula. En réalité, beaucoup de choses se jouent en cette période. Car comme le disait le sociologue Pierre Bourdieu, eh bien, le cadeau cesse d'être un objet bête pour devenir un message qui crée du lien social entre le donateur et le bénéficiaire. Notre cadeau a comme une âme qui nous permet de dire à l'autre qui il est pour nous et quelle relation nous désirons avoir avec lui. Il n'est pas simplement un objet parmi d'autres, il est vecteur d'une parole, d'un message caché que seul son destinataire peut décoder. Ainsi, nous nous demandons peut-être nous-mêmes eh bien, ce que nous allons bien pouvoir recevoir cette année. Imaginez justement que vous receviez en cette veille de fête eh bien, un gros paquet à la maison de la part d'un expéditeur inconnu. Alors vous ouvrez le paquet, un peu surpris, un peu dans le fait de se dire « qu'est-ce que je vais recevoir ?» et voilà que vous recevez 10 kilos des meilleurs chocolats des pâtissiers suisses qui existent. Je vois déjà des dames ici qui se font une belle idée de la chose et qui aimeraient bien recevoir un tel cadeau. Et à l'intérieur du paquet, au milieu de tous les chocolats, eh bien, il se trouve un petit mot. Et ce petit mot, il dit « chocolat pour toi à partager ». Celui qui vous fait ce cadeau veut ainsi que vous donniez de ces délicieux chocolats à d'autres. Certains vont me dire « quel crime ». Mais tel est son désir. Et même si vous pensez que c'est un véritable crime, bien c'est ainsi. Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez garder tous les chocolats pour vous, malgré tout ? Ou bien est-ce que vous allez en distribuer un peu autour de vous, ou un peu plus encore ? Le cadeau, un message qui passe. Le cadeau, un don à partager. C'est sur la base de ces deux réflexions eh bien, que j'aimerais ainsi ce matin revisiter avec vous ces textes bibliques que nous avons lus. En préambule, il nous faut d'abord dire que faire un cadeau n'est jamais vraiment gratuit. On cherche souvent à faire plaisir, par exemple, tout en se faisant plaisir. Quel père de famille, par exemple, n'a jamais offert le train électrique ou le circuit de voiture qu'il avait quand il était petit ? À son fils. Ainsi, il pourra jouer avec lui tout en lui faisant plaisir et en s'amusant lui-même avec lui. Ou bien combien de cadeaux n'avons-nous pas déjà offerts, car c'est ceux que nous aurions aimé recevoir quand nous étions enfants et que nous n'avons jamais eu. On cherche ainsi à densifier et à solidifier notre tissu social en faisant des cadeaux. Ne dit-on pas justement que les cadeaux entretiennent l'amitié ? Mais malheureusement, dans beaucoup de pays, y compris en France, faire des cadeaux, c'est aussi acheter son interlocuteur pour obtenir quelque chose de lui en retour. C'est un des principaux rouages de la corruption qui fait tant de ravages dans notre monde. Bref, un certain nombre de nos cadeaux sont donc faits par intérêt. Ils sont la plupart du temps des dons intéressés, consciemment ou non, plutôt que des offrandes spontanées, désintéressées, surtout en cette période de Noël. Or, avec la naissance de Jésus à Noël, Dieu nous fait un immense cadeau. C'est celui de son Fils. En envoyant Jésus parmi les hommes, Dieu ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas à nous faire un cadeau pour satisfaire un besoin. Il ne calcule pas en offrant son Fils. Il se donne complètement par amour pour nous. Bien plus, c'est une grâce, une faveur imméritée qu'il nous fait, sachant d'avance que le monde ne le recevra pas comme il aurait dû. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ensuite, le cadeau symbolise la personne aimée. C'est ce que résume le psychologue Samuel Lepastier. Tel un doudou, il nous rappelle sa présence et il nous aide à supporter son absence. Or, en nous faisant cadeau de Jésus, Dieu nous laisse en Jésus une image de ce qu'il est. Personne n'a jamais vu Dieu, Jésus, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. C'est ce que nous avons lu. Avant Jésus, personne n'avait jamais vu le Père face à face, tel qu'il est. Même Moïse ou Daniel ont vu des représentations de Dieu, mais ils ne l'ont connu que de façon partielle. Nous non plus, nous ne voyons pas physiquement Dieu. Et cela nous manque peut-être parfois beaucoup, parce que nous aurions tellement envie d'être dans sa présence bienveillante et paisible. Et nous aurions tant de choses à lui dire, à lui confier. Mais en Jésus, Dieu nous a permis d'approcher qui il est. Au lieu de nous laisser aller à notre imagination fertile, il nous suffit d'ouvrir les évangiles. Et là, nous verrons Dieu en Jésus, un Dieu aimant et juste, un Dieu saint qui a le mal en horreur, mais aussi miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, rempli de grâce, toujours prêt à pardonner. Ainsi, à chaque fois que nous entrons en relation avec Jésus, que ce soit par la prière ou par la lecture des évangiles, à chaque fois que Jésus est évoqué d'une manière quelconque, et plus particulièrement dans cette période de Noël, Dieu nous invite. Il nous invite à nous rappeler qu'il existe, qu'il nous aime et qu'il désire vivre en relation avec nous. Jésus est le cadeau divin qui nous invite à vivre une vie nouvelle avec le Père céleste. Le cadeau peut aussi symboliser le bénéficiaire et la valeur qu'il a pour nous. C'est pourquoi certains cadeaux peuvent nous blesser, par exemple, parce qu'ils témoignent, même inconsciemment, du peu d'attachement que l'autre a pour nous. De ce point de vue-là, en permettant la venue de Jésus sur terre, Dieu a voulu nous laisser un message spécial quant à ce que nous représentons pour lui. Or, la valeur de son cadeau témoigne de la valeur que nous avons pour lui. Ce n'est pas n'importe quel cadeau qu'il nous fait. C'est son propre Fils. C'est un cadeau d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu, parce que nous sommes, nous, d'une valeur inestimable pour lui. Nous sommes précieux à ses yeux. Il nous aime d'un amour infini, même si parfois nous avons du mal à le croire. Comment Dieu, qui est dans le ciel, tout puissant, peut-il s'intéresser à nous, au point de nous aimer alors que nous-mêmes, nous avons des fois tant de mal à nous aimer. C'est un véritable mystère et une réalité. La volonté de Dieu, pouvons-nous lire au verset 13 du premier chapitre de Jean, c'est que nous devenions ses enfants. Son désir, c'est que nous l'accueillions dans notre vie. Et pour nous montrer à quel point il nous aime en Jésus, eh bien, il nous a offert ce qu'il y avait de plus précieux, son propre Fils, qui est la parole, la vie, la lumière. Lorsque nous faisons un cadeau, nous sommes motivés donc par une raison quelconque. Lorsque nous faisons un cadeau, eh bien, c'est souvent, je l'espère, parce que nous aimons celui à qui nous l'offrons d'une manière ou d'une autre. Qu'il soit notre conjoint, notre enfant, notre parent, notre ami ou bien quelqu'un que nous apprécions. Or, c'est par amour que Dieu a pour nous qu'il nous a fait cadeau de son Fils. En effet, le péché a cancérisé spirituellement l'humanité et l'a rendu malade. Le serpent a fait croire à l'homme qu'il lui faisait un cadeau, justement, eh bien, en lui suggérant une clé pour devenir comme Dieu. Mais ce cadeau était motivé par la haine que le serpent avait. Comme la sorcière qui offre la pomme à Blanche-Neige, eh bien, ce cadeau était empoisonné. L'arbre était beau à voir et bon à manger en apparence, mais en réalité, une fois de son fruit mangé, une fois de son fruit reçu, eh bien, il devint mortel. La créature, à l'image lumineuse de Dieu, est devenue un être teinté de ténèbres, plus ou moins sombre. Parfois dans la vie, on peut aussi nous proposer des cadeaux très alléchants, des cadeaux qui peuvent nous permettre d'accéder à la richesse, à l'amour, au pouvoir, ou tout simplement à un mieux-être. Mais ils sont trompeurs. Si nous les acceptons, nous pouvons tomber dans un processus justement de mal-être et de destruction plutôt que d'aller de l'avant dans un chemin de vie. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de Dieu, avons-nous lu. Le cadeau de Dieu en Jésus, eh bien, c'est un cadeau qui nous ouvre à la véritable vie. À un certain niveau, c'est comme si on nous offrait plusieurs cadeaux, mais que nous ne devions choisir un seul entre tous. Sur quels critères nous baserons-nous pour faire notre choix ? Il y a tant de cadeaux merveilleux à recevoir et à garder. Nous aimerions bien tous les avoir. Comme ces enfants qui regardent les catalogues de jouets et qui veulent tous les jouets, n'est-ce pas, pour Noël. Serions-nous prêts à renoncer à tous ces cadeaux pour accueillir celui de Dieu ? Lorsqu'on nous offre un cadeau, il nous faut discerner ce qui motive celui qui nous l'offre. Le fait-il par amour, ou bien son cadeau cache-t-il une intention quelconque, voire une mauvaise intention qui peut nous faire trébucher ? Accepter le cadeau de Dieu, Jésus, signifie que peut-être nous ne serons peut-être jamais riches, jamais célèbres, que nous aurons peut-être des difficultés, des soucis dans la vie ou des maladies, mais que nous serons assurés d'être aimés d'un amour éternel par un Père céleste qui désire faire de nous ses enfants et qui a pour nous en vue de meilleures choses, de meilleurs projets que ceux que peuvent nous offrir les autres cadeaux si alléchants qui sont autour de nous. Il désire notre bonheur et il veut nous offrir encore mieux que tous les autres donateurs. À ce stade de notre réflexion, il est bon de faire une pause et de bien considérer ces choses. Peut-être cela fait des années que nous sommes chrétiens. Peut-être certains parmi nous avons-nous participé comme les enfants à l'école du dimanche, quand nous étions petits. Nous connaissons ces choses par cœur. Qui de nous ne connaît pas Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... Vous dormez ? Ah, il y en a quelques-uns qui suivent, ça va, ça me rassure. Pour nous, ce cadeau de Dieu est un acquis. Mais lorsque nous sommes amenés à considérer à nouveau toutes ces choses, quelle est notre réaction ? Faisons-nous comme nous pouvons faire avec certains cadeaux que nous recevons. Ils ont été posés dans un coin de notre salon ou de notre chambre, et puis nous passons tous les jours devant sans y prêter plus attention. Ou bien sommes-nous comme les chrétiens de l'église d'Éphèse, à qui le Seigneur, dans l'Apocalypse, reproche d'avoir abandonné leur premier amour ? Ou bien sommes-nous encore comme ces enfants qui sont émerveillés lorsqu'ils ouvrent leur paquet de Noël ? Lorsqu'ils ouvrent ces paquets, les yeux brillent. Est-ce que nous, quand on nous parle de ces choses qui concernent cet amour de Dieu, ce cadeau qu'il nous fait, nous avons encore les yeux qui brillent ? Ou bien sommes-nous comme la fiancée qui a reçu de son fiancé un poème d'amour qu'elle a encadré et qui le lit chaque jour tout à nouveau, émerveillée de cet amour qu'il a pour elle et qui ne s'en lasse jamais ? Quelle place Jésus a-t-il pris dans nos vies, dans ma vie ? Nous l'avons peut-être reçu. Et après, qu'en avons-nous fait ? Qu'en faisons-nous encore aujourd'hui ? Considérons ce cadeau que Dieu nous a fait, son propre Fils, et laissons-nous émerveiller tout à nouveau. Au milieu de tout ce qui brille et attire dans notre vie, désirons réapprendre à regarder avec les yeux émerveillés, avec les yeux étonnés d'un enfant radieux, ce bébé qui naît dans une crèche, car il nous aime. Cet homme qui est mort sur une croix parce qu'il nous aime. Ce Fils de Dieu qui ressuscite et qui nous offre la vie, car il nous aime. Dans son préambule, l'apôtre Jean nous renvoie aussi à d'autres aspects libérateurs de l'œuvre de Jésus, constituant autant de cadeaux qu'il nous fait, lui-même. Il y est présenté comme la parole, comme la vie, comme la lumière. Par sa parole, Jésus nous relève et nous pardonne. Ainsi, au paralytique, il dira « Tes péchés sont pardonnés. Prends ta civière, lève-toi, prends ta civière et marche », ajoutera-t-il. Et quand les épreuves nous font trébucher sur le chemin rocailleux de la vie, lorsque le péché nous rend impuissants à trouver la force de marcher, eh bien la parole de Jésus est là. Elle retentit avec force, paisiblement, pour nous inviter à nous lever. La parole de Jésus nous fait naître d'en haut, à une relation filiale nouvelle. Un amour nouveau est devant nous si nous l'écoutons, si nous lui faisons confiance, si nous désirons changer de direction dans notre vie. Par sa parole, Jésus nous sécurise dans nos choix de vie. « Va, ta foi t'a sauvé », dira-t-il à de nombreuses reprises dans les évangiles, n'est-ce pas ? À notre foi, parfois chancelante, fragile, eh bien Jésus donne un coup de peps formidable en nous affirmant que notre foi nous a sauvés. Lorsque nous nous confions en lui, lorsque nous faisons le bon choix, eh bien nous pouvons nous lever aussi avec assurance pour marcher sur le chemin qui mène vers la lumière et vers l'éternité. Étant la vie, Jésus nous met en mouvement, en marche. Libre de nos chaînes, comme nous le chantons, eh bien nous pouvons nous avancer avec confiance dans la lumière. Et lorsque nous recevons l'amour de Dieu, eh bien celui-ci dissipe peu à peu les ténèbres de notre vie, les ténèbres de notre cœur qui ont pu être obscurcies par le péché. En avançant sur le chemin de la vie avec Jésus, nous apprenons à voir les choses, les autres, la vie, avec un regard neuf, un œil neuf. Et nous découvrons que vivre de la vie de Jésus, eh bien, c'est vivre dans la lumière, à l'image de celui dont nous sommes devenus les enfants par la grâce et par la foi. Il est vrai que parfois, eh bien, le brouillard peut revenir nous entourer, et des fois nous nous en apercevons et nous le repoussons. Et puis d'autres fois, eh bien, c'est moins évident, c'est des fois trop tard, mais si nous cessons de marcher par la foi, il peut à nouveau eh bien, venir envahir notre cœur et nous aveugler sur le chemin, ce brouillard. Mais heureusement, eh bien, lorsque nous nous en rendons compte, Dieu est toujours fidèle et juste pour nous pardonner et éclairer à nouveau notre cœur et notre route. Et puis, deuxième point, marcher dans la lumière, justement, eh bien, c'est vivre en aimant. L'apôtre Jean nous l'a rappelé dans sa première épître. Ainsi que Jésus nous a aimés, eh bien, nous sommes appelés à aimer aussi ceux qui nous entourent. Et si nous disons que nous marchons avec Jésus, mais que nous restons égoïstes et orgueilleux, alors nous ne sommes pas cohérents. En cette période de Noël, durant l'hiver qui approche, les appels à donner aux associations caritatives, les reportages sur les SDF vont se multiplier. Et c'est très bien, il le faut. Il faut que cela, notre conscience soit ravivée par ces choses. Il nous faut répondre aux besoins de maintenant. Mais il ne s'agit pas seulement d'aimer les autres parce que l'occasion nous en est donnée, parce qu'on nous dit « donner à telle œuvre ». Non, ça n'est pas suffisant. Aimer notre voisin, même quand il fait du bruit la nuit, aimer notre patron, même quand il est injuste avec nous, aimer les membres de notre famille, même quand ils ne sont pas d'accord avec nous, et plein d'autres situations de ce genre-là, oui, là, aimer alors devient un véritable défi pour le croyant que nous sommes. Et ce défi prend un relief particulier, car ainsi que Paul nous en donne l'image en 2 Corinthiens 5, eh bien, nous sommes appelés à être ambassadeurs du Christ dans ce monde. Fils et filles d'un roi qui réside au ciel pour le moment, eh bien, nous avons reçu de lui la nomination et la vocation de le représenter dans un pays étranger qui s'appelle le monde. De ce monde, nous n'en sommes pas. Et il faut bien que nous fassions un effort particulier pour nous en souvenir, pour nous en convaincre, tellement il peut nous paraître familier à force d'y vivre. En tant qu'ambassadeurs, nous sommes porteurs d'un message. Un message pour les autres de la part de celui qui nous envoie. Ce message, c'est celui que l'apôtre Paul exprime donc en 2 Corinthiens 5 et que nous avons lu. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ce cadeau extraordinaire, c'est l'amour de Dieu et de Jésus son Fils qui a offert sa vie donc pour chaque habitant de ce monde. Mais présenter ce message, offrir ce cadeau, doivent se faire par amour. Et ça n'est pas toujours facile d'aimer celui qui est à côté de nous. Si nous sommes précieux aux yeux de Dieu, eh bien les autres le sont aussi. C'est ce qui doit nous pousser à les encourager puissamment à recevoir ce cadeau divin. Notre prochain, même celui qui est là, à côté de nous et que nous avons du mal à aimer, voire peut-être même que nous avons des sentiments qui nous poussent à le détester, pour lui aussi, Dieu est mort et il est ressuscité. Qu'allons-nous faire alors? Allons-nous garder ce cadeau pour nous seuls, comme la dame avec ses 10 kilos de chocolat? Ou bien est-ce que nous allons nous mettre à la place de Dieu encore et juger qui est digne de recevoir ce cadeau ou pas? Un peu comme Jonas qui avait décidé de qui devait être pardonné ou pas. Ou bien allons-nous l'offrir à toute personne que nous rencontrons et qui exprime le souhait de le recevoir. Nous ne sommes pas des ambassadeurs en pays conquis. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons aux autres et leur dire ce qu'ils doivent faire. Nous ne sommes pas là non plus pour leur dire que nous sommes meilleurs qu'eux parce que nous, nous avons tout compris. Non. À l'image de celui qui nous a sauvés, eh bien nous sommes appelés à aller dans un pays étranger, dans ce pays étranger qu'est le monde, pour apprendre à connaître ses habitants, pour apprendre à parler leur langue et comprendre leur culture. Nous sommes aussi appelés à être sensibles au fléau qui ravage ce pays et qui est le péché dont nous avons déjà parlé. Nous sommes appelés à aimer ceux que nous côtoyons et non à les juger. C'est un véritable cri du cœur qui doit retentir. Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec le Christ, au nom du Christ. Et c'est avec le désir spontané de partager le cadeau que nous avons reçu de Dieu face aux besoins des autres que nous sommes encouragés à le présenter et à l'offrir. Dieu ne nous a pas confié une méthode standard pour l'offrir, son cadeau. C'est à nous d'inventer la manière dont nous désirons le présenter aux autres. L'amour de Dieu ne s'enferme pas dans des recettes toutes faites. Non, c'est à nous d'imaginer comment le présenter et l'offrir aux autres. Chaque être humain que nous rencontrons est singulier, est différent, est unique. Et c'est un cadeau singulier que nous sommes invités à lui faire, un cadeau qui témoignera de la valeur qu'il a aux yeux de celui qui nous envoie et de celui qui l'aime d'une manière inconditionnelle. Un cadeau qui lui donnera envie de connaître le donateur et de le rencontrer. Que Dieu nous renouvelle et qu'il renouvelle notre cœur. Que son Esprit Saint nous fasse redécouvrir avec émerveillement, justement, et ferveur son amour pour nous. Que nous puissions l'accueillir tout à nouveau, comme si c'était la première fois, pour qu'il brûle dans notre cœur et qu'il nous pousse à partager ce cadeau avec les autres. Amen.